Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Déjeuner politique ce matin, c'est Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.
Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Patrick Roger.
La crise du Covid va-t-elle faire bouger les choses pour notre environnement aussi? On va voir ça dans un instant. Avant ça, donc le déconfinement phase 2, libéré, comme le disent certains. Une interrogation tout de même, Emmanuel Wargon. Pourquoi est-ce qu'on n'assouplit pas la limitation des 100 km dès ce week-end pour les gens qui voudraient profiter de 3 jours éventuellement de la Pentecôte pour se déplacer?
Je crois que c'est important qu'on fasse les choses par étapes, parce que notre objectif, c'est aussi de donner de la visibilité. On a de bons résultats sur l'épidémie, mais on a de bons résultats sur l'épidémie aussi parce que tout le monde respecte un certain nombre de restrictions. On avait annoncé depuis longtemps que ces restrictions couvraient ce grand week-end, et c'est vrai que le mélange de population, plus on se mélange, plus on se déplace, plus on a des risques aussi que l'épidémie se transfère d'un endroit à un autre. Donc je crois qu'il faut rester raisonnable. On ouvre les parcs et jardins dès ce week-end dans les zones qui étaient rouges et qui passent à l'orange.
En fait, on ouvre
France entière. Oui. Ça, c'était une demande et je crois que c'est un besoin et ça donnera une bouffée d'oxygène, notamment en Île-de-France. Après, les déplacements, c'est après le grand week-end. Il y aura des week-ends en juin, il y aura des week-ends en juillet.
Il y avait 3 jours, là. Donc, c'était un peu dommage. C'était l'occasion.
C'est sûr, mais après, les Français avaient compris qu'il n'y aurait pas de grand déplacement pendant ces 3 jours. Mais il reste la possibilité quand même de partir pour le samedi dimanche.
Oui, parce qu'Emmanuel Wargon, est-ce qu'il y a une crainte réelle de retour de l'épidémie? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, au plus haut niveau, justement, au gouvernement?
Et il y a toujours une crainte de voir comment cette épidémie va évoluer. Mmh. Et donc, on est en vigilance maximale. On est en très grande vigilance. On suit les chiffres tous les jours. On suit tous les signaux. Et si nous devons prendre des ajustements, nous les prendrons. Mais pour l'instant, nous avons depuis la phase 2 du déconfinement des résultats plutôt encourageants et ça nous permet de passer à la prochaine étape. Je crois qu'il faut être très vigilant, par exemple sur les gestes barrières. Continuer les gestes barrières, se laver les mains, le gel hydroalcoolique, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main, porter le masque qui est maintenant recommandé très très largement, évidemment obligatoire dans les transports. Tout ceci, ce sont des réflexes, en fait c'est une nouvelle manière de vivre d'une certaine manière, et ça protège soi-même et les autres. En fait, c'est vraiment un sujet de protection individuelle et collective. On est tous responsables chacun de soi-même et des autres, il faut qu'on continue avec cet état d'esprit.
Mais vous avez eu vous-même le Covid, hein, c'est ça, ou la Covid. Est-ce que vous avez encore des symptômes?
Moi, j'ai eu une version intermédiaire plutôt bénigne. Je l'ai eu relativement tôt, puisque je l'ai eu en mars. Pendant une semaine, 10 jours, j'étais vraiment complètement à plat, au lit, fièvre, courbature. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré une dizaine de jours, plus quelques jours pour retrouver
de
l'énergie.
Vous avez pris quoi, du Doliprane ou
j'ai pris
de l'hydroxychloroquine?
J'ai pris uniquement du Doliprane.
Vous auriez pu prendre de l'hydroxychloroquine et puis...
Tendance à croire les évaluations scientifiques et les autorisations de mise sur le marché. Et donc, on va attendre de voir quelles sont les évaluations scientifiques. J'ai pris du Doliprane.
C'est plus ou moins remis en cause, en fait, hein, sur certains points, pour l'instant.
En tout cas, le Doliprane pour faire baisser la fièvre et faire tomber les courbatures, c'était très bien.
La reprise des activités, j'ai vu que vous vous déplacez sur les chantiers. Vous voulez redonner un coup de booster aux travaux, et notamment pour la transition énergétique. On a l'impression que c'est un peu entre parenthèses, non?
Alors, non, c'est pas entre parenthèses. Et oui, c'est vraiment important que ça reprenne. D'abord, le bâtiment, c'est un des secteurs clés de l'activité économique du pays. Vous savez, quand le bâtiment va, tout va. Ouais. On a vraiment besoin que le bâtiment reprennent. Il s'était beaucoup arrêté. C'est en train de reprendre maintenant. On est à peu près à 3/4 des chantiers qui ont réouvert. Ils n'ont pas réouvert à 100% d'activité. Nous, notre objectif, c'est 100% de réouverture le plus vite possible. Donc, je suis allée voir hier en Saône-et-Loire des artisans pour discuter avec eux quelles sont leurs difficultés, pourquoi est-ce que ça reprend plus ou moins vite et comment on fait pour accélérer. Dans ces travaux, évidemment, au ministère de l'écologie, on soutient énormément les travaux de rénovation. Parce que ces travaux de rénovation thermique, c'est de l'activité pour le bâtiment et puis c'est aussi des économies d'énergie. Ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Il fait toujours chaud, on est toujours en réchauffement climatique. Donc ça existe toujours. Donc ces travaux-là, ils sont pour partie chez les particuliers. Et j'étais hier dans un chantier de particulier chez un monsieur qui rénove sa maison. Et le message, c'est vous pouvez reprendre vos travaux chez vous. C'est sûr, il y a un protocole pour les artisans,
des mesures
de sécurité. On peut, on doit, c'est important de reprendre les travaux. Et on peut reprogrammer des travaux. Il existe déjà pas mal d'aides avec une prime qu'on a lancée cette année qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est très simple à obtenir. Et donc, c'est le bon moment pour faire des travaux.
Oui, c'est ça. Bon, sauf que les artisans, bon, eux ont envie de reprendre et il y a parfois des petits doutes, quoi, hein, dans les petites équipes parce que il y a de la proximité beaucoup et c'est difficile toujours de porter d'ailleurs des masques. Hein. Vous en avez dû le voir en fait hier quand on travaille, quand il fait chaud comme ça, 25-30 degrés.
Alors, il y a plein de types de chantiers différents. Ouais. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de trouver des adaptations chantier par chantier. Quand vous êtes en extérieur, déjà, c'est plus facile. Il n'y a pas forcément besoin d'un masque. Si vous êtes tout seul en extérieur à faire de l'isolation par extérieur d'une maison, dans ce cas-là, c'est des travaux classiques. Quand vous avez plusieurs corps de métier à l'intérieur d'un appartement, bah, ça nécessite de s'organiser. Mais les artisans d'hier me disaient, bah, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui passe, et puis demain, c'est l'électricien, et puis après-demain, ce sera le plaquiste. Et ils arrivent aussi à organiser. C'est un peu plus compliqué, mais ça va se mettre en place.
Ouais. Emmanuel Vargon, vous voulez montrer l'exemple. J'ai vu que vous roulez en Zoé électrique. Vous êtes allé en Zoé électrique en Saône-et-Loire, mais vous avez fait des pauses, non ? Parce que c'est bien l'électrique pour l'instant.
Je roule en Zoé électrique depuis ma prise de fonction au ministère. Ah. Ma voiture de fonction à Paris, c'est une Zoé électrique.
Ouais.
Comme on relance, vous savez, le plan automobile cette semaine
parler,
avec
justement.
Les primes. Hier, j'étais en Saône-et-Loire, j'y suis allée en TGV.
Ah oui.
Et je suis arrivée à la gare du Creusot, et à partir de la gare du Creusot, on a fait tout ce circuit avec différentes étapes en Zoé électrique. Et c'est très bien de montrer que les voitures électriques, c'est fiable. Je suis remontée jusqu'à Dijon pour reprendre le train à Dijon en voiture électrique.
Vous n'avez pas pu aller, effectivement, en voiture électrique totalement jusqu'à là-bas, parce que c'est un petit peu compliqué.
Non, c'est plus rapide d'y aller en train, surtout.
Oui, bah, bien sûr, mais quand on peut, c'est possible, mais pas pour tout le monde.
La Zoé électrique, maintenant, ça permet de faire un peu de promotion, c'est très bien. Elle a presque 400 km d'autonomie. Hein. Donc, on commence à pouvoir faire des distances intéressantes.
Oui, en roulant des petites vitesses. Quand on prend l'autoroute, là, vous ne faites pas les 400 km.
Hein. En tout cas, tous mes déplacements en région parisienne, et j'en fais beaucoup, sont avec la Zoé.
Pourquoi, dans le grand plan de relance automobile, puisque vous défendez la transition énergétique, pourquoi vous avez limité à 2000 euros la prime pour les hybrides, et notamment aussi les hybrides rechargeables, alors que ça peut atteindre 7000 euros pour l'électrique ? J'avoue que je n'arrive pas à comprendre.
D'abord, on a créé une prime pour les hybrides parce que avant ce plan, les hybrides n'étaient pas du tout éligibles à des primes spéciales. Vous savez, on a une prime pour les électriques et les hybrides et une prime à la conversion. Donc, si vous mettez au rebut votre vieille voiture, c'est prime à la conversion. Et si vous achetez une électrique ou une hybride, en plus de la prime à la conversion, vous avez une prime spécifique. Donc, ça peut faire jusqu'à 12 000 euros pour l'achat d'une voiture. Donc, ça commence à devenir vraiment intéressant.
Pour l'électrique, oui.
Pour l'électrique, ça peut faire 5 000 plus 7 000.
Ouais,
et si c'est une hybride, ça peut faire 5 000 plus 2 000.
Attendez, hybride, vous n'avez pas 5 000.
Hybride, c'est 2000.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Si on rajoute la prime à la conversion...
Entre nous, on le sait, en fait, pour les hybrides et les hybrides rechargeables, c'est parce que les voitures françaises sont quasiment absentes pour l'instant et qu'on favoriserait l'étranger.
C'est parce que le bilan écologique d'une voiture hybride, il est nettement moins intéressant que le bilan écologique d'une vraie voiture électrique.
Vous pouvez vous déplacer, faire des grands trajets au moins.
Mais il ne faut pas opposer les modèles les uns aux autres. L'électrique, il y a encore 3-4 ans ou 4-5 ans, l'autonomie réelle, elle était à 80 km. Maintenant, l'autonomie réelle, elle est proche de 400 km. Et on va aussi déployer massivement des bornes électriques partout en France. L'objectif, c'est 100 000.
Ouais.
L'hybride, c'est une autre solution. Elle est moins bonne écologiquement. Elle est moins bonne. Comme elle est moins bonne écologiquement, elle est moins aidée. Mais de toute façon... Toutes les voitures sont aidées en prime à la conversion. Si vous mettez à la décharge, si vous rendez à votre concessionnaire une vieille voiture, là, vous avez une aide, quelle que soit la voiture que vous achetez dans les modèles les plus récents, les moins polluants.
Oui. Alors, sur les batteries électriques, justement, on va fabriquer un petit peu donc, en France, en Europe, et pas simplement importer de Chine ?
Oui, l'une de nos motivations, et c'était déjà vrai avant la crise, évidemment elle s'est renforcée, c'est de retrouver de la souveraineté stratégique sur les filières les plus importantes. La batterie, c'est évidemment une filière stratégique, et vous vous souvenez, il y a environ un an, on avait annoncé ce qu'on appelle l'Airbus de la batterie, c'est-à-dire un grand projet franco-allemand dans lequel on investit massivement pour... être plus fort, être plus autonome en matière de technologie sur les batteries. Donc on renforce encore ce projet à l'occasion de ce plan automobile pour pouvoir produire plus vite. Et donc pour que notre objectif, c'est 1 million de voitures électriques produites en France et autonomie industrielle sur les batteries.
Voilà. Dans les fameuses primes à la conversion, là juste encore une parenthèse, hein, il y en a toujours pour les SUV et les diesels. Ça, c'est critiqué par les écolos. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
En fait, l'important, c'est les émissions de CO2 par voiture. Et donc, c'est ça le marqueur. Parce qu'in fine, notre sujet, c'est est-ce que les voitures polluent beaucoup, émettent beaucoup de gaz à effet de serre ou pas. Et donc, les voitures qui sont éligibles sont celles qui ont le moins d'émissions de CO2 par véhicule. Et du coup, quel que soit le poids du véhicule, finalement, l'important, ce sont plutôt ces émissions.
Ouais. Est-ce que vous allez relancer une grande campagne sur, justement, la protection de l'environnement, les travaux énergétiques ou pas, hein?
Oui, on lance mi-juin une grande campagne de communication sur les travaux, la rénovation, les travaux énergétiques, dans la presse, dans les médias, pour dire aux particuliers, aux Français, à vous et moi, c'est possible de faire des travaux, ils sont maintenant très aidés, c'est plus facile de se faire accompagner, allons-y.
Les municipales, Gérard Collomb passe un deal à Lyon avec les LR. Doit-il être exclu de La République En Marche? C'est une nouvelle trahison de Gérard Collomb ou pas?
Vous avez probablement vu le message très clair de Stanislas Guérini hier, qui est le délégué général de La République En Marche, qui dit que ça n'est pas dans l'ADN du parti, que ça n'est pas conforme à notre ligne politique. Et du coup, il a demandé que la Commission nationale d'investiture regarde si on maintient l'investiture ou pas du candidat actuel LREM à la ville de Lyon, Yann Cuchera. Donc moi, je pense que notre positionnement, notre ligne politique, elle est autour d'un socle commun et que ça n'est, ce socle commun,
c'est
ça
quoi,
n'est pas
socle
ce que
commun?
Nous partageons avec Laurent Wauquiez.
Ouais.
C'est un socle commun.
Bah, ça dit, mais il y a des LR avec qui vous avez passé plus ou moins des deals auparavant, quoi, sans mettre de candidat dans des grandes villes.
Mais on a une
donc,
vision...
Donc bon, le socle commun, il est variable, quoi, non? Les valeurs sont variables?
Non, je ne crois pas que les valeurs soient variables. Ce sont des valeurs de liberté économique, de soutien à l'activité, à
mais
l'attractivité.
Édouard Philippe, c'est un ancien LR, c'est le Premier ministre.
Donc je veux juste répondre à la question... Nos valeurs sont des valeurs de liberté, d'attractivité, de soutien économique, de développement de l'activité économique et du travail. Ce sont aussi des valeurs de protection. Moi, j'y suis très sensible. C'est de ce monde-là que je viens. Protection des plus fragiles, des plus en difficulté. Moi, je me retrouve complètement dans ces valeurs avec Édouard Philippe. Je ne m'y retrouve pas avec Laurent Wauquiez.
Ouais. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus, Emmanuel Vargon.
Vous parliez de souveraineté économique, et bah Bruno Le Maire en parle aussi. Produire chez nous, aujourd'hui, plus produire chez nous, ça veut dire que... plus de pollution chez nous, surtout.
La question, c'est comment est-ce qu'on intègre toute la pollution dans nos mesures de politique publique? Parce que quand on produit en Chine, les gaz à effet de serre, finalement, ils se mélangent dans l'atmosphère. Donc, qu'ils soient émis par une centrale à charbon en Chine ou par une usine en France, in fine, ça fait une quantité très élevée de gaz à effet de serre et ça fait du réchauffement climatique. Si on produit en France ou en Europe, on va produire individuellement pour chaque mode de production avec moins d'énergie, parce qu'on est plus vigilant, on a des normes plus strictes. Mais c'est vrai que ça compte dans le bilan carbone de la France ou de l'Europe et pas dans le bilan carbone de la Chine. Donc ça veut dire qu'il faut calculer ce qu'on appelle l'empreinte carbone globale et donc réintégrer ce qu'on appelle la pollution importée, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, en gros la pollution qui vient des produits importés, dans notre calcul. Parce que finalement, notre objectif est mondial. On a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe. On a aussi besoin que ça baisse à l'autre bout du monde, sinon on n'atteindra pas les objectifs de limitation du réchauffement climatique. Donc c'est très important de pouvoir continuer à produire en France et en Europe parce que nos modes de production sont meilleurs, ils sont plus décarbonés. Vous prenez le charbon, on est en train de fermer les 4 dernières centrales électriques à charbon en France, et donc l'électricité en France, elle est de plus en plus décarbonée. Du coup, ça n'est pas une contradiction de produire plus en France et de lutter contre le réchauffement climatique, l'émission de gaz à effet de serre.
Ça veut dire que vous allez surveiller plus les entreprises.
Il faut qu'on surveille les entreprises, il faut qu'on les surveille et qu'on les incite surtout à faire les investissements qui leur permettent de produire avec des énergies plus propres. Mais ça doit rester une politique mondiale. C'est pour ça que c'est très important de garder cette animation, cette volonté internationale, cette diplomatie climatique internationale. Parce que si on le fait à un endroit du monde et pas ailleurs, du coup, l'effet n'est pas le même.
Merci Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Restez avec nous dans un instant, le journal de 8h.